Joël Kotek, président de l'Institut Ionatas, vient nous présenter sa dernière initiative en date, le colloque intitulé « L'exil forcé des Juifs, des Chrétiens et des Yézidis des pays d'Orient ». Ce colloque aura lieu les 18 et 19 novembre prochains à Bruxelles. Il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Joël Kotek.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste de l'antisémitisme et cofondateur de l'Institut Ionatas à Bruxelles. C'est d'ailleurs à ce titre que vous organisez un colloque le 18 et 19 novembre prochain sur l'exil forcé des Juifs, des Chrétiens et des Yézidis des pays d'Orient. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de ce colloque? Qui sont les intervenants que vous avez invités?
Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a tout un certain nombre de sujets qui sont presque interdits en Belgique. Et parmi ces sujets-là, effectivement, on parle toujours de la Nakba, etc. Et ce qui me paraissait intéressant, c'était aussi d'aborder le thème de ce que moi je qualifie volontiers de Nakba des Juifs d'Orient, des Chrétiens d'Orient et des Yézidis. Parce que, bon, on se rend bien compte qu'effectivement, l'autre rive de la Méditerranée comptait des communautés juives extrêmement importantes. On parle de l'ordre de entre 850 000 et 900 000 juifs qui vivaient dans le Machrek et dans le Maghreb. Et aujourd'hui, il reste tout au plus 6 500 personnes. Et donc, il y a eu, on pourrait presque dire, oui, une évaporation totale de ces grandes judaïcités. Et de rappeler, effectivement, à travers un colloque, qu'on s'est proposé d'organiser comme une évidence, même si rien n'est évident en Belgique. Ce qui est évident, c'est la Palestine en Belgique. C'est certainement pas Israël. Hein, la Belgique, c'est un des rares pays qui, le 14 mai, ne célèbre pas Israël, mais ne parle justement que de cette Nakba. Et donc, ce qui était intéressant d'expliquer, c'est que la population aujourd'hui qui vit en Israël, elle est originaire aussi de ces pays qui étaient arabes, qui sont arabes, qui ne l'étaient pas au moment de l'installation des Juifs. Et donc on a décidé ce grand chantier-là. Et donc, naturellement, on s'est intéressé à inviter les spécialistes. Et parmi les spécialistes, on a, je crois, ceux qui travaillent le plus sur cette question-là, notamment Georges Bensoussan, qui est l'auteur d'une somme chez Talendier, d'à peu près de 400 pages, plus un ouvrage un peu plus grand public publié chez Odile Jacob sur, on peut dire, la tragédie des Juifs d'Orient, alors qui n'ont pas été forcément chassés, mais qui ont été dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient que quitter le monde arabe. Alors on invite aussi Paul Fenton, qui est professeur, qui a été professeur, qui est professeur émérite à la Sorbonne, qui vit aujourd'hui en Israël, qui est arabisant, bien évidemment, et qui a travaillé sur cette question-là, et notamment le Yishuv, c'est-à-dire de ces Juifs qui vivaient en Terre Sainte depuis des centaines et des milliers d'années, etc. On a invité aussi Daniel Siboni, grand intellectuel parisien, né à Casablanca, docteur en mathématiques, docteur en philosophie et élève de Lacan, et qui est aussi un des spécialistes de la question des Juifs d'Orient, des Mizrahim, et d'autres personnes. On aura la chance d'avoir un juif égyptien qui va nous raconter. Là, c'est vraiment l'exil forcé, puisque les juifs d'Égypte ont été chassés par Nasser en 1956. Et on a la chance d'avoir Sylvain Abitbol, qui est le président de Justice for the Jews of the Middle East, donc qui dirige une ONG, qui est chargée de rappeler justement le sort tragique de ces juifs-là, et qui effectivement pose la question des restitutions et des réparations à juste titre, puisque ces 850 000, 900 000 juifs ont été forcés pour la plupart de quitter sans leurs biens, c'est-à-dire ils ont été totalement spoliés. Et ça, c'est une question qui est assez importante et qui serait intéressant que l'Union européenne et que le gouvernement belge prennent compte, effectivement, aussi de ce qui s'est passé, et donc peut-être de ce qui apparaît comme un échange de population entre ces Palestiniens qui n'ont pas tous été chassés, contrairement à ce qu'on dit, et ces Israéliens, ces Juifs plutôt aujourd'hui Israéliens, qui ont dû quitter les terres où ils étaient implantés depuis des temps immémoriaux.
Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Ça peut nous éclairer plus avant sur la manière dont ces différentes communautés ont vécu ensemble en s'enrichissant mutuellement, justement. Aujourd'hui, ce pluralisme, il a vraiment disparu du Moyen-Orient?
Alors le pluralisme, on peut le dire, évidemment, le pluralisme a disparu. Si vous prenez au début du XXe siècle, il y avait des populations minoritaires, chrétiennes, juives, arméniennes, grecques, de Tanger jusqu'à Istanbul, je veux dire, c'était une évidence. L'Empire ottoman comptait encore 23% de chrétiens, de juifs et d'arméniens. Aujourd'hui, il reste en Turquie 0,6% de chrétiens, de grecs orthodoxes. Je dis, il y avait les Espagnols, etc., sont partis. On parle pas seulement des pieds noirs, on parle de gens qui étaient là depuis très longtemps, en Égypte notamment, et comme je l'ai dit, de ces juifs qui, en Égypte, étaient là avant l'invasion musulmane, avant l'invasion arabe, ou de ces juifs qui, avant l'invasion arabe aussi, avaient rédigé le Talmud. Je veux dire, les juifs d'Irak, c'était une grande puissance intellectuelle, je veux dire, c'était une communauté extrêmement importante. On parle que dans la ville de Bagdad, il y avait entre 25 et 30% de juifs. Aujourd'hui, il reste dans cette ville où on a écrit le Talmud, 4 juifs. Peut-être 4 juifs, peut-être moins. Voilà. Et ça, c'est la réalité, effectivement, de ce judaïsme-là, qui était d'une extraordinaire richesse. Mais comme le rappellera Georges Bensoussan aussi, bon, qui a vécu des temps très, très difficiles, surtout au Maroc, comme il l'explique, au Yémen et en Iran.
Alors aujourd'hui, on parle également dans le contexte des émeutes d'Amsterdam, on est juste la semaine d'après, et dans le contexte également de la montée de l'antisémitisme dans toute l'Europe que vous dénoncez régulièrement dans les journaux à Bruxelles. Il y a urgence de parler de ces thématiques-là pour il y a un écho avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés européennes.
Oui, il y a un écho. Alors l'écho, c'est quoi? Justement, et c'est ça qui rend, je crois, presque indispensable notre idée de colloque. Alors en gros, ce que nous reprochent les adversaires d'Israël, en gros les antisionistes radicaux, qu'ils soient arabes ou même forcés, et même européens, bien sûr, il faut pas se leurrer là-dessus, c'est que les Juifs seraient étrangers, en quelque sorte, à cette terre qu'on appelle Israël, qu'ils seraient, je sais pas, des pièces rapportées, on ne sait d'où, d'Allemagne, de Pologne, etc., que l'entreprise sioniste serait une entreprise colonialiste, etc. Et ce que nous renseigne justement cette question-là, c'est que les Juifs sont des indigènes. Les Juifs sont des indigènes du Moyen-Orient, tout simplement. Et des indigènes du Moyen-Orient, dans ce qu'on appelle la Palestine, oui, il y avait des Juifs, mais c'était des Juifs palestiniens. Et ça, il faut rappeler que la Palestine appartient aussi aux Juifs. Le mot, d'ailleurs, ne vise pas les Arabes. Il visait la population des Philistins, il est d'origine romaine. Donc voilà, et ce qu'explique très bien, notamment Georges Bensoussan, c'est que, et Denis Charbit, qui malheureusement ne sera pas là, c'est que le sionisme est, comment dire, une entreprise de décolonisation de l'être juif. Un moment de libération des juifs, des chaînes, quelquefois dorées, qui l'oppressaient aussi bien dans la cité chrétienne que dans la cité musulmane. Et c'est en ça. Et donc, voilà, alors. Et effectivement, aujourd'hui, compte tenu du fait que les Juifs seraient des colonialistes, des Blancs et je ne sais quoi d'autre encore, on peut se permettre d'être antisémite au nom du bien. Et le bien, c'est, comme nous avons lutté contre l'apartheid, luttons maintenant contre l'apartheid sioniste, etc. Et tout ça est basé sur des prémices totalement fausses, mais malheureusement, l'ignorance, elle est généralisée. C'est ça le souci.
J'allais justement vous poser la question, qu'est-ce qui explique aujourd'hui à Bruxelles, l'opinion publique est vraiment pro, disons, palestinienne en majorité. Qu'est-ce qui explique que ce conflit crispe autant aujourd'hui et que les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire cette montée d'antisémitisme en Europe?
Il y a différents facteurs, c'est-à-dire ce que j'aime toujours souligner, je me répète, mais c'est qu'il y a en fait trois couches d'antisémitisme. Il y a le vieil antisémitisme primaire, qui n'a jamais disparu, qui a été refoulé avec la Shoah. Donc c'est l'antisémitisme chrétien, c'est l'antisémitisme de l'ultranationalisme raciste, du Vlaams Belang par exemple. Ça va être aussi l'antisémitisme économique de gauche. Il faut pas oublier qu'effectivement il y a une partie du monde ouvrier, pas tous heureusement. Emin van der Velde, le fondateur du Parti socialiste, était sioniste, mais aussi au nom d'un économisme mal compris, d'assimilation des juifs à l'argent. Donc il y avait une opposition d'une certaine frange du mouvement de gauche. Et puis l'antisémitisme musulman, que l'on nie mais qui existe, et dire qu'il y a l'antisémitisme musulman est une évidence, comme on dit qu'il y a l'antisémitisme chrétien. On le sait, bien évidemment. Et puis, bien sûr, il y a cet autre antisémitisme que je qualifie de secondaire, qui a été théorisé par des scientifiques allemands. C'est l'antisémitisme, non pas à cause des juifs, mais à cause de la Shoah. C'est la culpabilité liée à la Shoah, en disant finalement vous n'êtes pas mieux que nous, vous aussi vous êtes des nazis, vous aussi vous tuez des femmes et des enfants, etc. Alors c'est une manière de libérer effectivement une conscience extrêmement lourde, et cet antisémitisme-là est beaucoup plus développé en Flandre, où on voit des appels au meurtre à travers Bruxelles-Mans, ce qui n'est pas du tout sanctionné. C'est absolument aberrant. Et puis il y a ce que moi j'appelle, je l'ai inventé, l'antisémitisme de calcul ou tertiaire, enfin je l'ai inventé, tertiaire dans ce sens-là, c'est le fait que compte tenu de la forte présence de gens d'origine musulmane dans nos cités, et pourquoi pas, les partis politiques font une surenchère pour savoir qui de ces partis-là, entre Écolo, entre le PTB et entre le Parti Socialiste, sera le plus opposé à Israël dans l'espoir de gagner des voix. Et tout cela, dans un contexte aussi de gauchisme culturel, on peut le dire, tout cela forme, comment on dit, ce que les Américains appellent une tempête parfaite, a perfect storm. Tout ça, ces trois éléments s'accumulant, plus ce fameux gauchisme culturel, font que Israël aujourd'hui et les Juifs sont la proie d'accusations totalement absurdes. Et on n'en a que sur la question palestinienne, à défaut de toutes les autres, je dis. Et c'est la même chose aux Nations Unies. Donc Israël est devenu le Juif des nations, tout simplement. Et donc voilà. Et donc, il y a un professeur de la Sorbonne qui a tout résumé en disant... l'antisémitisme n'est pas, c'est pas le Moyen-Orient qui explique l'antisémitisme, mais c'est l'antisémitisme qui explique pourquoi les gens focalisent essentiellement sur le Moyen-Orient. C'est-à-dire ça, c'est un sacré soulagement que de pouvoir enfin dire que les Juifs sont comme nous, ils ne sont pas meilleurs que nous, etc. Donc c'est un moyen de, encore une fois, de déculpabiliser de, on pourrait dire, de 2000 ans d'opprobre porté aussi bien en islam qu'en chrétienté contre les Juifs.
Eh bien, en tout cas, merci Joël Kotek pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'antisémitisme et fondateur de l'Institut Jonatas et que vous êtes là pour nous parler justement de ce colloque le 18 et 19 novembre prochain sur l'exil forcé des Juifs, des chrétiens et des yézidis des pays d'Orient. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup à vous. Merci Radio Judaïka.